Chapitre 51. Île de Gotland, Suède.
Vous n'allez pas mourir. J'ai stoppé l'hémorragie. Cessez de vous agiter.
Valeria Everianov tenta de bloquer Misha sur le lit tout en protégeant les perfusions qui reliaient la jeune policière aux poches plastiques de liquide translucide suspendues au-dessus d'elle. Un soldat en uniforme se tenait devant la fenêtre, pleine vue sur les milliers d'éoliennes blanches de l'île de Gotland, au large de la Suède, où l'hôpital Sklodowska était installé. Un hôpital presque exclusivement réservé aux militaires de la garde internationale et aux policiers du BIC, gardé jour et nuit par une trentaine de soldats, et dans lequel n'importe quel agent en mission pouvait se téléporter d'une simple pression sur le bouton d'urgence de son TPC. Misha se débattait avec une énergie furieuse, secouant le lit médicalisé de ses gestes incontrôlés.
« Il faut envoyer des hommes là-bas » criait-elle. « Il faut sauver Pangaea !»« Mais allez-vous enfin vous calmer ?»
tonna plus énergiquement l'urgentiste.
« Vous vous doutez bien qu'un commando a été envoyé sur le mont Popa, sans parler des centaines de gardes sur place. Vous n'allez pas faire mieux qu'eux, surtout dans votre état. Vous n'avez pas de pouvoir magique, même dans votre déguisement de déesse birmane.
Il l'a tué ?»
Valeria enfonça une aiguille dans le bras de Misha.
« Comment voulez-vous que je sache ? Ça fait presque une heure que je suis concentré sur une plaie de 3 cm à la hauteur de votre aorte thoracique. Tonnerre de Mars, arrêtez de bouger ! Taisez-vous ! Laissez-moi vous soigner !»
Misha n'en avait aucune intention. Elle continua de s'agiter dans tous les sens, au risque d'arracher les fils qui la liaient à son lit, comme Pangaea à son ordinateur.
« Faites venir un flic, le commandant Akinis, ou n'importe qui. Je veux juste savoir ce que voulait Victor Kapp, s'il s'en est pris à Pangaea, si elle est vivante, si elle est vivante !»
lâcha l'urgentiste tout en préparant une nouvelle seringue.
« Elle est vivante !»
répéta Misha, peinant à croire au miracle. Puis elle s'effondra sur le lit. Son cœur battait si fort. Kapp n'avait pas tué Pangaea. Qu'était-il venu faire alors sur le mont Popa? N'avait-il pas eu le temps d'exécuter son plan? Misha sentait que tout son corps se relâchait.
« Vous connaissez bien Pangaea ?»
demanda Valeria Everianov. La capitaine coréenne s'étonna du ton maternel avec lequel la médecin-chef avait posé la question. La seconde suivante, elle réalisa que la question elle-même était plus étonnante encore que son intonation. L'identité de Pangaea était en théorie tenue secrète. Seuls Galiléo Nemrod, Artem, Babou, elle, et sans doute quelques rares hauts fonctionnaires de l'OMD et du Congrès connaissaient son existence.
« Depuis peu, »
répondit mécaniquement Misha.
« Mais je suis profondément attaché à elle. Vous la connaissez ?»«
Assez bien, et surtout depuis beaucoup plus d'années que vous. »
Et tac, Valeria planta sans ménagement une seconde aiguille dans le bras, gauche cette fois, de Misha.
« Je dois aller la voir, »
fit la policière en trouvant la force de se redresser.
« J'étais chargée de sa sécurité. Je dois savoir ce que Victor Kapp lui voulait. Peut-être est-elle blessée, au moins traumatisée. Je dois... »
L'urgentiste la repoussa avec agacement au fond du lit.
« Cessez de vous agiter comme une puce sur un TPC. Rassurez-vous, elle va bien. Du moins aussi bien que dans son cas on puisse aller. »
Une alerte s'alluma dans le cerveau de Misha, une série de flashs qui crépitèrent sous son crâne. « Je la connais depuis beaucoup plus d'années que vous, aussi bien que dans son cas on puisse aller. La toux de Pangaea, la paralysie de Pangaea depuis son accident à l'âge de 10 ans.
Vous êtes le médecin de Pangaea ?»
Valeria Everianov sourit.
« Je vous ai injecté un calmant. Ça fera effet dans quelques minutes. Oh, je vais enfin avoir la paix. »«
C'est vous qui avez soigné Pangaea. Vous êtes le médecin le plus haut gradé de l'Organisation mondiale de la santé. Nemrod avait besoin d'un médecin compétent et qui saurait garder un secret. Il a forcément fait appel à vous pour suivre la convalescence de sa fille. »
Valeria fixa Misha.
« Impressionnant, mademoiselle Kim. Même avec une entaille de 3 cm au bord du cœur et dans les veines 60 mg de morphine qui aurait déjà assommé n'importe quel patient normal, vous parvenez encore à des déductions tout ce qu'il y a de plus remarquable. »
La capitaine serra les poings.
« Dites-moi, Valéria, dites-moi, je vous en supplie avant que je m'endorme. Dites-moi, de quoi souffre Pangaea ?»
L'urgentiste s'assit sur le lit. Ses yeux froids, déterminés, prirent pour la première fois une tonalité adoucie, presque douloureuse. J'ai rencontré Pangaïa il y a 22 ans. Elle avait alors 10 ans. Elle venait de survivre à un effroyable accident de téléportation humaine. On l'a opérée pendant 48 heures consécutives, avec toute l'équipe d'urgence de l'OMS au beau milieu de l'océan. Nous sommes parvenus à la sauver, même si la plupart des terminaisons nerveuses étaient touchées. Elle ne pourrait plus jamais marcher et encore moins se téléporter. Puis, je n'ai pas revu Pangaïa pendant des années. Jusqu'à il y a 2 ans. Son état physique se détériorait rapidement. Toux chronique, maux de ventre, vomissements. Galiléo m'a appelé. Le diagnostic fut rapide, hélas. Misha crut déceler une larme au coin des yeux de Valéria. Le foie, les poumons, le pancréas étaient touchés. Une saloperie de maladie dégénérative, une version accélérée du syndrome de Hunter, s'était déclarée. Plus rien ne pouvait l'arrêter. Si on avait pu la diagnostiquer plus tôt, on aurait pu gagner des années, tenter des greffes, lutter. Mais là, le mal a pris trop d'avance. Pangaïa, la voix du médecin trembla, Pangaïa est condamnée. Lorsque Misha se réveilla, elle ne reconnut pas le décor autour d'elle. Les froids murs blancs de l'hôpital Sklodowska avaient été remplacés par les boiseries d'un château médiéval. Tentures rouges pendues au mur, armoiries posées sur la cheminée, armures rutilantes gardant la porte d'entrée. Un lustre de cristal pendait au-dessus du lit à baldaquin, un lit dans lequel elle était allongée.
« Vous êtes réveillé, capitaine ?» demanda une voix calme et rassurante.
Elle leva les yeux. Son corps restait engourdi, tout autant qu'incroyablement léger.
« Président ? Président Nemrod ?»«
Bienvenue parmi les vivants, Misha. » Une autre voix venait de l'interpeller, plus familière celle-là. Elle tourna légèrement la tête. Artem se tenait debout près d'une meurtrière, seule ouverture visible dans le mur. Croiser un tel sourire d'ange au réveil, fallait bien de frôler la mort et de se faire charcuter pendant des heures par Valéria.
J'ai eu très peur pour toi.
Un ange doux et gentil qui s'assoit sur le rebord de son lit.
Où sommes-nous?
Cette fois, ce fut Nemrod qui prit la parole.
Dans mon château. On le surnomme depuis 2 siècles le nid d'hirondelle, une forteresse. Nul ne peut y entrer ou en sortir sans mon accord express. Vous serez sous ma protection cette fois.
Que s'est-il passé?
Allez-y, fit Nemrod en s'adressant à Artem. Racontez-lui en quelques mots, le temps presse.
Le commandant dirigea successivement ses yeux vers Misha puis vers le président. Un regard tiède, mitigé, à froideur clinique en direction du politique et à chaleur empathique pour son adjointe.
Victor Kapp s'est enfui. « Expliqua-t-il. Juste après avoir tenté de te poignarder, puis neutraliser Pangaïa, pieds et mains liés, yeux bandés, pour l'empêcher d'intervenir sur la base de données. Il a filé. Sans doute parce que tu as donné l'alerte en te téléportant. 30 hommes étaient postés de l'autre côté de la porte.
Et maintenant ?»«
Il peut être partout sur Terre, » admit Artem. « Mais on a une piste. Cléophée Loisel accompagnée de Lilio de Castro. » Elle a été repérée devant la porte d'un appartement qu'on avait placé sous contrôle, celui d'un petit ami qu'elle fréquentait à Londres, sur Piccadilly. On a rendu tabou l'appartement. Ils sont coincés. Ils ne pourront pas se téléporter. Je dois y aller, Misha.
La capitaine hocha la tête.
Elle se sentait tellement fatiguée.
Je reste avec elle, indiqua Nemrod. Commandant Akinis, j'espère que cette institutrice et ce journaliste ne vous échapperont pas cette fois. Nous sommes à moins de 90 minutes du lancement de la nouvelle Babel. Il est hors de question que je prenne le risque d'une telle opération si les centaines de TPC clandestins récupérés par Lilio de Castro sont dans la nature ou entre les mains de terroristes. Sans oublier ce tueur, dont on ignore les intentions.
« Président, » interrogea Artem, « Victor Kapp est-il entré sur Pangaïa? La base d'information, je veux dire. A-t-il trafiqué certaines données ?»«
Non, commandant, non. » Les ingénieurs systèmes sont formels, il n'a touché à rien.
Artem réfléchissait tout en soupesant dans sa main le poignard japonais de Kapp, récupéré auprès de Valéria et Verianov.
Étrange. Pourquoi prendre le risque de s'introduire sur le mont Popa alors?
Pourquoi se contenter de neutraliser votre fille avec des cordes et un bâillon ?
J'aurais préféré qu'il l'égorge, commandant, répliqua Galiléo Cassan. Il vous reste moins de 2 heures. Il va forcément ressurgir quelque part. Soyez là cette fois, commandant, soyez là. Et pas d'hésitation ce coup-ci. Tuez-le. C'est un ordre. Tuez-le.